Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous en arrivons à considérer les actes extérieurs de la vertu de religion. Dans mes précédents sermons, j'ai insisté sur l'importance des actes intérieurs, parce que c'est ce sur quoi il faut insister pour vous aujourd'hui, dans les temps présents. Mais évidemment, cela ne signifie absolument pas que les actes extérieurs doivent être négligés. Ils sont même nécessaires. Ils sont tout d'abord nécessaires comme un hommage rendu à Dieu, parce que nous ne sommes pas des anges. Et il est normal que notre corps, nos biens, contribuent à l'hommage que nous rendons à Dieu. Ces actes sont au service des actes intérieurs. Ils sont là pour les favoriser. Par conséquent, ils appartiennent à la vertu de religion, mais en même temps, ils n'ont pas la même nécessité, ils doivent être modulés en fonction de l'aide qu'ils apportent aux actes intérieurs. Plutôt que de vous faire un long discours, voyons quels sont ces actes et comment ils nous servent à honorer Dieu. Le premier, c'est l'adoration. Vous allez me dire que l'adoration est un acte intérieur et non pas extérieur. Il est évident que l'adoration est un acte intérieur, mais si vous y réfléchissez bien, mes bien chers frères, vous verrez vite que l'adoration est comprise dans le dévouement, la dévotion. Nous sommes au service de Dieu. Pourquoi sommes-nous au service de Dieu? Parce qu'il est le maître. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il a droit à un service universel, total. Tout notre être, toute notre âme, tout notre corps, tous nos biens sont au service de Dieu, parce qu'il est le maître, parce que nous sommes dans la dépendance de lui. Nous n'avons rien que ce que nous avons reçu de lui, et l'adoration consiste à reconnaître cette souveraineté de Dieu. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a bien l'acte intérieur, mais il faut en prendre conscience. Et pour en prendre conscience, il y a les actes extérieurs d'adoration, et c'est cela au sens strict que l'Évangile et saint Thomas appellent l'adoration. Dans l'Évangile, vous lisez que le centurion, par exemple, se prosterne aux pieds de Jésus, et l'Évangile, dans le texte latin, nous dit « adorat », il adore Jésus. Il se prosterne. L'adoration va donc consister dans le fait de se prosterner, dans le fait de se mettre à genoux, pour reconnaître la souveraineté de Dieu. Vous vous rendez bien compte que cette adoration est la plupart du temps nécessaire, parce que celui qui ne se mettrait jamais à genoux, qui ne ferait pas d'acte extérieur de révérence envers Dieu, comme de s'incliner devant la croix de l'autel, se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, etc., oublierait que dans les actes intérieurs, il y a cet aspect d'adoration. Il ne saisirait pas bien ce qu'est la vertu de religion. Donc vous voyez que ces actes sont nécessaires. Cependant, ils sont nécessaires autant que, pas plus que, pas moins que. Par exemple, le baptisé, adulte, se prosterne de tout son long en entrant dans l'église. C'est très beau, c'est très symbolique. Quand il ne peut pas le faire, il se contente de se mettre à genoux. Il se prosterne de tout son long, c'est la première fois qu'il entre officiellement dans l'église. Jusqu'alors, s'il était entré dans l'église, c'était encore en païen, pas encore en fils de Dieu, même si le cœur y était. voilà un acte d'adoration qui, tant pour lui que pour les assistants, fait bien prendre conscience des choses et, après cela, va inciter à vivre dans cet esprit d'adoration. Maintenant, mes bien chers frères, s'il fallait que vous vous prosterniez de tout votre long à chaque fois que vous allez communier, d'une part, ce ne serait pas très pratique. Deuxièmement, il y en aurait peut-être beaucoup qui n'iraient pas communier à cause de cela. S'il fallait que vous vous prosterniez de tout votre long dans le cœur de l'Église avant d'avoir le droit d'entrer au confessionnal, vous voyez bien que ça ne serait pas du tout convenable. Le deuxième acte extérieur de la vertu de religion, c'est le sacrifice. Et là, même remarque. Je vous ai fait un sermon vous expliquant que le sacrifice, c'était faire du sacré, c'est-à-dire consacrer les choses à Dieu. Il s'agit là évidemment d'un acte intérieur. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous le reconnaissons comme le Maître, lorsque nous nous mettons à son service avec promptitude, puisque c'est cela la dévotion, le dévouement si vous préférez, il est évident que nous consacrons notre temps, nous consacrons nos énergies et même nous consacrons nos biens au service de Dieu. Cela, nous le faisons parce que Dieu est le Maître, il est le Tout-Puissant, tout vient de lui, tout ce que nous avons vient de lui, et nous allons y être aidés en lui offrant des choses, des biens, qui viennent de lui et que nous allons détruire, saint Thomas dit que nous allons les détruire, pour nous rappeler à nous que ces biens-là, nous pourrions ne pas les avoir. Et que si nous n'étions pas au service de Dieu, nous ne mériterions pas de les avoir. Je vous donne un exemple. L'encens que nous faisons brûler à la messe solennelle. À quoi cela sert-il? Cela sert à nous rappeler que nous devons, comme l'encens, brûler, nous consumer au service de Dieu et que la bonne odeur de nos vertus doit monter vers le ciel comme la bonne odeur de l'encens. D'où l'importance d'avoir un encens qui sente bon. Il en va de même des cierges. Le cierge, d'une part, apporte la lumière, d'autre part, il se consume. Et il nous rappelle, parce que ça coûte cher, les cierges. Et on pourrait dire, ça sert à rien, pourquoi en mettre 6? 2 suffirait. Puis on pourrait mettre 2 lampes électriques. Surtout aujourd'hui, avec les LED, ça ne coûte pas cher, voyez. On mettrait 2 LED, hein, à droite et l'autre à gauche du Saint-Sacrement. Vous imaginez? Cela nous rappelle, donc les cierges, l'encens, qu'il faut nous consacrer à Dieu, que nos biens doivent être consacrés à Dieu et qu'ils ne nous appartiennent pas strictement et que si Dieu l'avait voulu, nous n'aurions rien. Et nous n'aurions même pas la vie. Dans l'Évangile et depuis la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice extérieur qui nous est demandé est relativement symbolique. Certes, quelquefois, il nous est demandé le sacrifice de notre vie, par le martyr par exemple, et je vous en ai parlé à propos des béatitudes. Sous l'Ancien Testament, sous le régime de l'Ancien Testament, les cœurs étaient beaucoup plus endurcis, notre Seigneur n'était pas venu, et on ne leur demandait pas d'offrir des sacrifices symboliques comme la cire des cierges ou l'encens, on leur demandait carrément d'offrir des bœufs et des taureaux. Je me vois mal demander l'offrande de bœufs et de taureaux. Heureusement et normalement, c'est évident, les pauvres n'offraient que des tourterelles. Ce sacrifice nous rappelle que notre Seigneur est mort sur la croix en adoration pour son Père, pour notre salut certes, mais d'abord en adoration pour son Père. L'homme avait déshonoré Dieu. Et Jésus-Christ rend à Dieu l'honneur dont l'homme l'avait privé. Il le lui rend intérieurement parce que l'honneur rendu à Dieu le Père par Jésus-Christ dans les actes de sa vie était infini et suffisait pour rendre l'honneur à Dieu. Mais il fallait que cela se voie. Et il fallait non seulement que cela se voie, mais que les hommes soient incités à s'unir au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour rendre honneur à Dieu. D'où l'importance du sacrifice de la croix, qui n'a pas été un petit sacrifice. Saint Thomas d'Aquin pose la question, Dieu aurait-il pu nous sauver avec beaucoup moins que le sang de Jésus-Christ? Et il répond, oui, il aurait pu, mais nous n'aurions pas compris. La grandeur des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle la grandeur de l'acte intérieur qui nous est demandé. Si notre Seigneur a tant souffert, alors que ça n'était pas nécessaire, c'est pour nous rappeler, non pas pour nous exciter, parce que le plus entraîne le moins, un acte héroïque de Jésus-Christ fait que au moins nous ferons des petites choses, c'est pas cela. C'est nous rappeler que l'acte intérieur par lequel nous nous sacrifions à Dieu doit être de plus grande valeur encore que l'offrande du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous avons le vœu. Nous avons le vœu, il est important que je vous en dise un mot, parce que Mgr Lefebvre a voulu que ses prêtres ne fassent pas de vœux. Et il y a là une leçon pour nous qui est importante, nous les prêtres, et je pense qu'il est important que je vous fasse profiter, mes bien chers frères, du fruit de cette leçon que Mgr Lefebvre nous a donné. Parce que, vous voyez, je vous ai dit qu'il fallait savoir s'abstenir d'actes extérieurs et même de sacrements quand c'était nécessaire pour garantir notre fidélité à Dieu. Et cela, évidemment, peut vous avoir surpris. Nous ne sommes pas habitués à cela, parce que nous sommes un petit peu comme les Hébreux, nous sommes un petit peu comme les enfants. Nous posons les actes extérieurs et puis nous nous reposons là-dessus. Ça suffit, nous avons fait ce que Dieu demandait, c'est à lui de se débrouiller pour que cela porte le fruit que cela doit porter. Et nous négligeons le reste. Mgr Lefebvre a voulu que nous n'eussions pas de vœux, que nous ne prononcions pas de vœux. Cela peut être un peu surprenant parce que le religieux, normalement, se consacre à Dieu et le vœu le consacre à Dieu. Mais saint Thomas nous explique que le vœu est là pour renforcer la volonté défaillante de l'homme. Parce qu'il n'y a pas que les religieux qui sont consacrés à Dieu. Vous tous, mes bien chers frères, par le baptême, vous êtes consacrés à Dieu. Vous l'êtes totalement, vous ne l'êtes pas moins qu'un religieux. Vous l'êtes totalement. Et si vous n'êtes pas religieux, c'est que le bon Dieu vous a demandé un autre type de consécration, mais non pas une consécration moindre. Les religieux, eux, sont dans un état de vie qui leur permet d'être plus loin du monde et plus facilement près de Dieu. Et ils prononcent des vœux. Pourquoi ? Parce que cela leur garantit que jamais ils ne reviendront en arrière. D'une part parce que l'homme est faible et il doit toujours se méfier de soi-même. D'autre part parce que cela montre l'exemple. Nous voyons que le service de Dieu est une chose tellement importante qu'il est légitime de s'enchaîner, pourrait-on dire, au service de Dieu, s'enchaîner par amour, bien entendu, au service de Dieu. Et cela nous fait comprendre la grandeur de l'acte intérieur qu'il faut poser et que sans cela, peut-être, nous pourrions négliger. Malgré tout, vous vous rendez bien compte que s'enchaîner au service de Dieu est une chose, ça c'est l'acte intérieur, s'enchaîner de telle ou telle manière, c'est un acte extérieur. Et dans la situation actuelle de l'Église, ça n'était pas prudent. Ça n'était pas prudent parce que on est religieux dans un ordre qui n'apporte plus les garanties que les ordres apportaient autrefois, puisque l'Église est défaillante, enfin malade. L'Église n'est jamais défaillante, mais l'Église est malade aujourd'hui. Les supérieurs ne veillent plus au grain. Alors on va faire des vœux auprès de tel supérieur, cette supérieure défaille, alors que va-t-on faire? On va avoir des scrupules. Monseigneur Lefebvre ne voulait pas non plus que nous eussions des vœux de pauvreté, parce qu'il nous disait, ça vous gêne dans l'apostolat. Avec la pauvreté, vous êtes toujours obligé de demander au supérieur, alors que les âmes attendent pendant ce temps-là. Et il y avait une autre raison, c'est que Mgr Lefebvre voulait nous faire prendre conscience que notre, à nous les prêtres, notre véritable consécration vient de notre sacerdoce. Et les vœux qui, à certaines périodes de l'histoire de l'Église, viennent renforcer la conscience chez le prêtre de l'importance de sa consécration par le sacerdoce, à d'autres époques de l'histoire de l'Église, dans d'autres circonstances, viendrait peut-être prendre le pas sur la consécration sacerdotale. J'ai connu un religieux, un dominicain, à qui je demandais de réagir publiquement dans les épreuves de l'Église. C'était dans les années 70, quand j'étais étudiant. Et il me répondit « Rappelle-toi que je suis religieux avant d'être prêtre ». Et moi, je n'étais encore qu'étudiant en droit, mais cela m'avait profondément choqué. Et je lui dis « Non, mon père, vous êtes d'abord prêtre avant d'être religieux. » Parce que le prêtre célèbre la messe, il est au service de Dieu beaucoup plus que le religieux. Et voilà typiquement un religieux qui, à cause de ses vœux, avait mal compris l'importance des exigences de son engagement sacerdotal. Donc c'est cela qu'il faut le mettre en œuvre. Et la puissance de la force de la crise s'augmentant, j'ai pensé qu'il était utile, dans certains cas, de ne même pas faire prononcer de vœux aux frères qui sont avec moi, que ce soit au Moulin du Pain déjà, et c'était tout à fait officiel et connu des supérieurs, et que ce soit à la Villeneuve, et là encore, c'est tout à fait officiel et connu des supérieurs, puisque j'en ai parlé à Mgr Williamson. Je leur fais donner la tonsure et les ordres mineurs, et Monseigneur m'a dit « Mais pourquoi me demandez-vous de leur donner la tonsure ?» Je lui ai dit « Monseigneur, s'ils n'ont pas les vœux, il faut qu'ils aient quand même quelque chose qui marque leur attachement à l'Église. Aujourd'hui, les vœux ne sont pas raisonnables. Que vais-je faire? Je vais demander un vœu d'obéissance à ma personne. Quelle garantie vais-je offrir ?» Ce n'est pas raisonnable. Par contre, dire aux frères qui sont avec moi, quelle que soit la situation, même si je disparais, vous restez engagés envers l'Église parce que vous êtes clercs, parce que vous êtes engagés par la cléricature et les ordres mineurs. Celui qui a compris qu'il est clerc, dans les circonstances difficiles qui vont venir, se dira « Je suis clerc, je suis au service de l'Église ». J'ai un petit peu insisté sur cette question, mes bien chers frères, d'abord parce qu'elle est claire, votre engagement. Parce qu'il en va pour vous, comme pour nous. Vous êtes engagés par le baptême, vous êtes consacrés à Dieu par le baptême, et c'est cette consécration dont il faut que vous preniez conscience. Quelles que soient les circonstances extérieures, quelles que soient les situations extérieures, c'est par votre baptême, c'est par la confirmation, et c'est par chaque communion. Chaque communion vous unit à Dieu, vous consacre à Dieu. Vous allez me dire que je remue le fer dans la plaie parce que on ne peut pas communier aussi souvent qu'on voulait. Mais si nous avions bien compris, une seule communion dans notre vie suffirait pour faire de nous des saints. Et lorsque le bon Dieu ne permet pas que nous communions aussi souvent que nous le voudrions, il est évident que c'est pour un plus grand bien et non pas pour un plus grand mal, et que par conséquent, il nous fait comprendre par là que nous devons être attentifs, avec le peu de communion que nous avons, être attentifs à vivre comme des consacrés. Comme les frères doivent être attentifs, sans les vœux, à vivre comme des consacrés. Je passe brièvement sur le serment, qui est pour notre utilité et la gloire de Dieu, mais une gloire extérieure lorsque nous prenons Dieu à témoin de la vérité de nos paroles. Et j'en arrive à la louange vocale. C'est le dernier des actes extérieurs, voyez. La liturgie est très importante. C'est tout l'ordonnancement extérieur du culte. Et cependant, saint Thomas le met à la fin des actes extérieurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la liturgie a pour but de nous faire entrer dans un état d'esprit. et elle, suivant les circonstances, telle ou telle chose sera utile ou ne le sera pas. Saint Thomas entre dans les précisions concrètes. Il dit, nous n'employons pas des paroles pour faire connaître à Dieu ce que nous avons dans le cœur ou dans l'esprit, parce que Dieu le sait bien, c'est même lui qui l'y a mis. Nous utilisons des paroles pour nous exprimer à nous-mêmes ce que nous devons avoir dans le cœur et l'esprit par rapport à Dieu. Parmi ces paroles, évidemment, il y en a qui sont très importantes parce qu'elles viennent directement de Dieu, ce sont les psaumes. Mais bien qu'ils viennent de Dieu, les psaumes, mes bien chers frères, nous les prêtres, nous les utilisons tous les jours. Vous, mes bien chers frères, c'est assez souvent en dehors de votre portée, même si nous essayons de vous y initier. Vous avez la grande prière du Pater dont je vous ai parlé. Vous avez toute cette louange vocale et puis celle de la liturgie, la liturgie officielle de l'Église, la liturgie moins officielle, par exemple le chemin de croix, le chapelet, et tout cela doit être adapté à votre situation. Serait-il raisonnable, lorsque vous sanctifiez le dimanche à la maison, que je vous demande de pratiquer tous les rites de la messe chantée, de faire l'encensement alors qu'il n'y a pas de prêtre, de faire une messe alors qu'il n'y a pas de consécration? Cela fausserait l'esprit des enfants et même l'esprit des adultes, et qui croiraient du coup qu'ils ont tout parce qu'ils ont eu le rite extérieur. On ne joue pas à faire la messe. Cependant, l'épître, l'évangile ont été choisis pour vous, par l'Église, pour chaque semaine, en fonction du temps liturgique et donc du temps de l'année. Voilà une richesse dont vous pouvez parfaitement profiter et vous gagnez à l'évidence à lire, et même à la Villeneuve, ils chantent l'Épître et l'Évangile pour donner plus de solennité. Il y a une dévotion qui, quoique n'étant pas liturgique, est très importante, c'est le chemin de la croix. Je vous conseille le dimanche le chemin de la croix, d'abord parce que vous vous mettez à genoux, et donc c'est un acte d'adoration. Cela vous rappelle le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, et cela vous le rappelle d'une façon qui est bien adaptée à votre situation, parce que vous pouvez prendre un chemin de la croix dont le texte a été écrit par un saint, ou bien vous pouvez adapter votre propre chemin de la croix, et c'est tout à fait légitime. L'Église n'impose aucune prière extérieure, vocale, lors du chemin de la croix, parce qu'elle veut laisser à tous la liberté. Voilà un acte extérieur qui ne serait pas raisonnable tous les dimanches dans d'autres circonstances et qui devient très raisonnable dans les circonstances que vous connaissez. La même chose pour le chapelet. Monseigneur Williamson insiste sur la récitation du rosaire parce qu'à notre époque, ce rosaire est d'autant plus important. On appelle le rosaire le psautier de la Vierge, comme il y a 150 psaumes, il y a 150 Ave Maria dans le rosaire. Je termine donc ce sermon, mes bien chers frères, sur cette considération du rosaire, pour vous montrer, vous rappeler une dernière fois que les actes extérieurs de la vertu de religion sont des actes de la vertu de religion et que par conséquent, ils ne sont pas négligeables. Mais ce sont des actes extérieurs qui sont faits pour nous faire comprendre les choses, pour nous rappeler les choses et que par conséquent, ils doivent être mis en œuvre selon l'avantage qu'ils nous apportent, le secours qu'ils nous apportent dans nos actes intérieurs de vertu et de religion. Que la Sainte Vierge vous aide, qu'elle vous rende profondément religieux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.